Carrefour des Arts. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christa Leuc.
Une belle journée de l'été 2008 à la Fondation Pierre Janada. Le visiteur déambule entre arbres et plans d'eau parmi les œuvres des plus grands sculpteurs de notre temps. Mayol, Brancusi, Henry Moore, Chagall, Calder, Paul Bury, César. En ce haut lieu des Alpes suisses, leur talent est venu prendre ses quartiers d'éternité, tout comme au loin la neige des sommets du Saint-Gothard et du Grand Saint-Bernard. Un jardin d'hiver dans ce parc et une terrasse fort accueillante. Canal Academy a fait le déplacement car la célèbre fondation abrite jusqu'en novembre une importante exposition Balthus, peintre qui fut un ami intime de ces lieux. Et c'est au cœur de telles merveilles que nous rencontrons Leonard Janada, créateur de la fondation et membre de l'Institut depuis 2001. Il a bien voulu soustraire quelques instants de son agenda très chargé pour nous accorder un bref entretien. Leonard Janada, bonjour.
Bonsoir.
C'est en novembre 1978 que vous avez créé à Martigny, en Suisse, la Fondation Janada. Elle a donc 30 ans, le bel âge. Vous lui avez donné le nom de votre frère cadet, Pierre Janada. Pouvez-vous nous dire comment est née cette fondation d'art qui a grandi sous le regard du Mont Blanc ?
Plus exactement, c'est au milieu de nulle part, ou presque. C'était il y a 32 ans que j'ai découvert les vestiges d'un temple gallo-romain en faisant les fouilles d'un immeuble que je voulais construire, puisque je suis constructeur ingénieur.
Parce qu'il y avait une route qui passait par Martigny, une route romaine ?
Oui, Martigny se trouvait sur le passage de Rome, de l'Italie, vers l'Helvétie, les Gaules, la Germanie. Donc, on trouve les vestiges de ce temple. Je reçois le permis de construire, ce qui sous-entend le permis de raser ces vestiges, ce qui me contrariait beaucoup. Je ne savais pas que faire, et c'est à ce moment, en 1976, que mon frère Pierre, mon frère cadet, a eu un accident d'avion au retour d'une expédition en Égypte. Son petit avion, ils étaient 6 personnes, a dû faire un atterrissage de fortune à Bari, dans le sud de l'Italie, et il s'est échappé de l'avion en flammes avec 4 de ses camarades. Mais les autres brûlaient dans l'avion, il est retourné pour leur porter secours. Il a été lui-même grièvement brûlé et il est décédé une semaine plus tard des suites de ce sauvetage.
Et vous étiez très très liés tous les deux?
Oui, j'étais très lié. Du reste, il y a une exposition qui retrace une aventure que nous avons eue. J'ai fait en 1960 le tour de la Méditerranée en voiture avec lui. Alors, pendant 4 mois, vivre dans une coccinelle, je vous promets que ça marque. Donc, on est très proches, très liés. Un autre exemple, quand il s'est marié quelques années plus tard, il est allé faire son voyage de noces à Bornéo, chez les coupeurs de tête, les Dayak. Il m'a pris avec lui en voyage de noces. Il a aussi pris sa femme. Et puis, c'est pour vous dire que nous étions proches. Alors, comme il y a eu cet accident, il est décédé, j'ai décidé mais immédiatement de faire une fondation qui porte son nom, ce qui me permettait de sauvegarder les vestiges de ce temple. Alors, j'ai donné le terrain, j'ai offert la construction, et j'ai réalisé la fondation qui a été inaugurée 2 ans plus tard, le 19 novembre 1978, le jour où Pierre aurait fêté ses 40 ans.
Et aujourd'hui, cette belle réussite propose un surprenant concept. D'abord, un musée d'art, nous y reviendrons. Et puis aussi un musée gallo-romain qui présente les principales découvertes faites à Martigny. Un parc offrant un espace unique au plus prestigieux de la sculpture moderne. Et aussi un auditorium attestant votre qualité de grand mélomane. Les muses sont vraiment chez elles dans ce prestigieux complexe dédié aux arts.
Oui, effectivement, j'ai souhaité que ce soit un lieu animé où il se passe quelque chose. Et je peux dire que c'est le cas puisqu'on a accueilli près de 8 millions de visiteurs, ce qui représente chaque jour, pendant 30 ans, 700 visiteurs. Pour une petite ville comme Martigny, qui n'avait que 12 000 habitants à l'époque, 15 000 aujourd'hui.
Et je crois que c'est unique au monde. Martigny n'est quand même pas au centre d'un nœud de communication. Pour s'y rendre, il faut prendre un petit train à Lausanne. remarquez, un parcours de charme, certes, mais qui demande quelques efforts quand même.
Oui, c'est au centre de rien du tout. Mais vous savez, une fondation comme celle-là, dans une grande ville comme Zurich, Paris ou ailleurs, n'aurait eu aucune chance. Mais comme au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, on peut plus facilement faire un événement.
Vous êtes modeste, mais la modestie n'empêche pas les grandes ambitions.
Non, je ne suis pas modeste, je suis lucide.
Pour revenir au musée de votre fondation, où actuellement on peut admirer cette fabuleuse exposition Balthus, mais comme votre temps est très limité, nous n'approfondirons pas le sujet, d'autant que nous recevrons bientôt Jean Clerc à notre studio à Canal Academy. Restons alors à la création de ce musée. Par quel cheminement cela s'est-il fait ? Vous êtes ingénieur de formation, alors par quelle porte l'art est-il entré dans votre vie ?
Alors je rappelle que Jean Clerc est le commissaire de l'exposition Balthus.
Oui, j'ai oublié de le spécifier, merci.
Et le co-auteur du catalogue raisonné, donc il avait fait la première exposition Balthus il y a une trentaine d'années au Centre Pompidou, et il fait partie de notre conseil de fondation. Donc on a eu la chance, il a obtenu des prêts fabuleux. C'est la seule exposition du centenaire, parce que Balthus aurait célébré ses 100 ans aujourd'hui, puisqu'il a eu la bonne idée de naître un 29 février 1908.
Oui, en effet, il pouvait fêter ses 100 ans dans 25 ans, oui. Alors, pour en revenir à ma question, par quelle porte l'art est-il entré dans votre vie ?
Écoutez, il y a une exposition de photos maintenant à Martigny, de photos que j'ai faites et que je ne connaissais pas, si bizarre que cela puisse paraître, qu'on a redécouvert maintenant. La médiathèque de Martigny voulait faire une exposition sur les 30 ans de la Fondation. Et puis, de fil en aiguille, cette exposition s'est transformée en une exposition de photographie, puisque j'étais reporter, photographe, et même le premier caméraman de la télévision suisse romande pour le Valais, il y a plus de 50 ans, au début de la télévision en Valais, en 1957. Et puis, ceci pour dire que le directeur, le commissaire de cette exposition de photos montre quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, qui me touche, que la fondation n'est pas un point de départ, c'est un aboutissement. Donc j'avais plus de 40 ans quand j'ai fait la fondation, mais tout ce que j'ai fait et vécu avec mon frère notamment avant devait presque immanquablement arriver à la conclusion de faire la fondation avec les événements qui se sont produits. Donc tout simplement, à l'âge de 20 et quelques années, j'ai dirigé des fouilles archéologiques. Donc je m'intéressais à l'archéologie. Tout ça est reproduit dans cet ouvrage. Je m'intéressais à l'histoire beaucoup. J'ai fait des études classiques. Donc c'est pas comme beaucoup l'imaginent que tout d'un coup, à 40 ans, je commence à m'intéresser à des concerts ou à des expositions. Non, oui. C'est un aboutissement et pas un départ.
Oui, mais c'est tout de même étonnant pour un ingénieur de formation. Et en lisant votre biographie, on voit qu'à l'âge de 15 ans, vous avez fait un voyage en Italie avec votre mère. Et c'était pour vous une véritable découverte, paraît-il. L'art italien avec toutes ses richesses, la Renaissance, à Florence par exemple, Michel-Ange, la chapelle Sixtine à Rome, Pompéi. Autant de découvertes pour vous.
Oui, ça a été la découverte. C'était en 1950. Donc, c'était au sortir de la guerre. On commençait à bouger, et peu. Donc, il y avait eu la guerre, les trains ont recommencé à circuler, et ma mère nous emmène, mes deux frères, mon frère aîné, Jean-Claude, et mon frère cadet, Pierre, à Rome pour l'année sainte, 15 ans. Et là, on fait arrêt à Florence d'abord, à Rome, à Naples, à Pompéi. Ça a été une découverte. C'était, je crois, vraiment ce qui a déclenché tout le reste de mon parcours.
On comprend mieux qu'à partir de ce choc culturel, vous ayez ressenti quelque chose comme l'appel de l'art.
Oui, une découverte, des choses insoupçonnées. Encore une fois, c'était au sortir de la guerre. Il y a eu peu de livres illustrés, encore moins en couleur. Oui. Donc tout ça, c'est tout nouveau. Oui. Et cette découverte marque le reste de ma vie.
Pour revenir sur la fondation proprement dite, vous avez parlé des fouilles. Je me réfère à un livre, Léonard Giannada, un bâtisseur converti à l'art, livre entretien où Jean Clerc, encore lui, a fait la préface. Et il parle entre autres d'un fil invisible, du domaine de l'intuition, de l'occulte. entre vos origines italiennes, la condition de l'immigré, l'ambition, le courage, la ténacité, et puis au bout, l'éclatante réussite. Et quand vous commencez à creuser l'emplacement de ce qui allait devenir plus tard fondation, et que vous découvrez un temple, un sanctuaire et les effigies d'un culte très ancien au taureau, et là, alors je cite Jean-Claire, vous trouvez en creusant la source de votre propre destin. De cette découverte archéologique est sorti le lieu culturel que l'on sait et que l'on admire. C'est tout de même assez extravagant. Et certes, vous avez su suivre un fil invisible.
Oui, c'est vrai. J'aimerais aussi rappeler que mon grand-père est venu d'Italie comme réfugié économique à l'âge de 13 ans en 1976. Donc, il quitte son Piémont natal, il vient à pied dans un pays dont il ne parle pas la langue, il sait à peine lire et écrire. Et je pense que ses origines m'ont beaucoup marqué. Ses origines italiennes, le travail de mon grand-père, ma formation classique, tout ça a joué un rôle dans... C'est maintenant que je m'en rends compte. Quand on est dedans, c'est après, quand on y réfléchit, quand on pose des questions, que je fouille, que je me rends compte que c'est, tout ça était important.
Parlons maintenant, si vous voulez bien, du parc des sculptures. J'ai la grande chance de me trouver dans cette belle nature et dans ce parc de sculptures vraiment unique au monde, avec des œuvres des plus grands noms de la sculpture moderne. C'est un véritable exploit de les voir réunis ici dans ce paysage d'exception. Et vous voulez en dire peut-être un mot à nos auditeurs, Leonard Giannada ? Comment vous avez réussi à acquérir et à rassembler tous ces artistes de renom international ?
Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a les noms des artistes, c'est certain, mais il y a surtout la qualité des œuvres. Pas seulement les noms, mais des œuvres importantes. Ouais. Eh bien, on m'a souvent demandé si j'avais une collection de peintures, d'œuvres d'art, etc. Je n'en ai pas, ou pratiquement pas, pour la bonne et simple raison que je me suis dit qu'avec 10 tableaux, avec 15 tableaux, on ne fait pas une exposition de peinture. Par contre, avec 10 sculptures ou 15 sculptures, on fait une exposition. J'ai voulu me faire différemment de ce qui se passait, ce qui s'est toujours passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'en Suisse, tous les musées sont construits au centre des villes. Il n'y a pas d'espace, il fallait qu'ils soient à proximité pour les gens, pour pouvoir s'y rendre à pied. Maintenant, ça change, ça évolue. Moi, j'ai construit la fondation où j'ai trouvé le temple, et j'avais un terrain autour de la fondation d'une certaine importance. Et ce terrain, je me suis dit, si je faisais un parc de sculptures. Et petit à petit, j'ai acheté des sculptures un peu partout. Et tout d'un coup, j'ai constaté que ça constituait un véritable parcours, sans fausse modestie, de la sculpture du XXe siècle.
Il y a là des Rodin, des Miro, des Niki de Saint-Phal.
Chaque sculpture a une histoire. Chaque œuvre a été achetée dans des... Je prends le Penalba, par exemple, que je vois depuis ici. Eh bien, il vient du parc de Middelheim à Anvers. Et c'est la plus grande sculpture d'Alicia Penalba. Elle est venue en péniche et elle mesure 12 mètres de long,
de haut, de long,
parce qu'elle est venue coucher.
Ah oui.
Et puis un diamètre imposant, elle pèse un certain nombre de tonnes. Donc il a fallu l'amener depuis Anvers jusqu'à Martigny en passant par le port de Bâle. Et ensuite, vous prenez par exemple le Calder. Le Calder que j'ai acheté à la fille Calder, elle était à Saché dans l'atelier de son père en Touraine, et c'est là que j'ai été la trouver. Mais chaque œuvre a fait... Par exemple, il y a Max Ernst. Alors, elle a aussi une histoire. Je me trouvais à Paris, à New York, chez marchand Jeffrey Lauriat, avec Jean-Louis Pratt, l'ancien directeur de la Fondation Mac de Saint-Paul, qui fait aussi partie de notre conseil de fondation. Il préparait une exposition sur la sculpture des peintres et il demande à Jeffrey Lauriat, j'aimerais beaucoup que vous me prêtiez ce Max Ernst, le grand assistant de Max Ernst. Et Lauriat lui a répondu, non, ça m'ennuie parce que j'aimerais la vendre, je ne veux pas la bloquer, la réserver. Alors, sans vouloir y toucher, je demande un peu comme ça, et qu'est-ce que ça vaut, une sculpture, une œuvre comme ça, mais ça coûte tant. Alors je dis, bien voilà, elle est achetée, c'est fait, Jean-Louis, tu peux la voir. Donc c'est comme ça qu'elle est entrée dans son exposition et à Martigny ensuite. Et chaque œuvre a eu son histoire.
Bravo et félicitations. Pour terminer, car je sais que votre temps est très précieux, un mot peut-être sur la Suisse, un pays connu pour ses banques, ses montres, ses chocolats, avec l'image archétypale de la vache sur les alpages. Voilà pour les stéréotypes. Mais au-delà, il y a une autre Suisse, plus secrète sans doute, et qui a profondément fécondé l'imaginaire européen. Pour ne citer que quelques noms parmi les plus connus, on peut évoquer des penseurs, écrivains ou artistes tels que Jean-Jacques Rousseau ou le dramaturge Dürrenmatt, et les romantiques, bien sûr, Füssli et Böcklin, Giacometti aussi, qui étaient tous suisses, et d'autres qui s'y sont installés ou réfugiés, tels que Byron, les grands Polonais Mickiewicz et Slovatsky, les Russes Dostoïevski, Tourguenieff, et puis sans oublier Rainer Maria Rilke et Pierre-Jean Jouve, si importants dans la vie de Balthus justement. Et puis toute une pléiade de peintres, Paul Klee et Balthazar Klossowski de Rolla, qui est Balthus justement. Je crois que c'était vraiment un passage obligé de la culture européenne, depuis les aristocrates jusqu'aux rêveurs de la haute montagne. Ça doit être un pays qui apparemment stimule l'imagination. Et d'où vient ce magnétisme particulier qui a fait de ce pays, certes très petit par la taille, un pôle d'attraction pour ces grands esprits?
Vous savez, c'est un peu difficile pour moi puisque j'y suis. Donc, il faut demander à ceux qui viennent pourquoi est-ce qu'ils viennent. Mon grand-père est venu ici parce qu'il avait faim, tout simplement. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai 73 ans et que j'ai toujours vécu à Martigny et que je ne pourrais pas vivre ailleurs. C'est assez incroyable, mais quand je m'éloigne, bon, j'ai fait des voyages, mais j'étais heureux et content de revenir, pas en Suisse, à Martigny, dans une ville où ça n'a pas été toujours facile. D'être d'origine italienne pendant la guerre, ce n'était pas facile. Mais malgré tout ça, si j'ai fait la fondation, c'est pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi parce que j'avais besoin de rendre à ce pays, à cette ville, un peu de ce qu'ils nous ont donné en nous accueillant, en nous permettant de nous faire une situation. Et c'est un sentiment de reconnaissance. Et pour ça, il faut être très égoïste parce que c'est fou ce qu'on peut se faire plaisir en essayant de faire plaisir.
Pour un égoïste, vous ne manquez pas de générosité. La société vous a honoré de multiples titres et de décorations et vous êtes membre d'une liste vraiment impressionnante de conseils d'administration, de musées, de fondations réputées. Alors une question un peu personnelle, si vous m'y autorisez. Comment faire face à tant de responsabilités et vous ménager le temps de vivre l'art, de vivre la famille, de vivre les amis, les voyages?
Oui, vous savez, de plus en plus difficilement. Je me rends compte que je fais les choses beaucoup plus lentement qu'avant, peut-être avec plus de perfection. Donc ça me prend à plein temps et puis parfois je rêve de retraite. C'est vrai. Vous parliez des titres, des décorations que j'ai reçues, et des musées, des conseils dont je fais partie. Je fais partie du conseil d'administration, mais quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est qu'on me demande de faire partie de la commission des acquisitions du musée Rodin et ensuite du musée d'Orsay. Donc c'est un témoignage de reconnaissance.
Oui, une attestation de votre savoir-faire sûrement, de votre œil, comme dirait Pierre Rosenberg de l'Académie française.
Que je connais bien, que j'apprécie beaucoup.
Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien dans ce lieu magique de votre fondation. Et nous espérons vous retrouver un jour prochain à notre studio de Canal Académie à Paris. Merci, Léonard Giannada.